Vous écoutez
RMC.
7h59, la météo, c'est à peu près la même qu'hier, Géraldine?
C'est à peu près la même chose qu'hier, donc on reste toujours en vigilance orange canicule sur le sud-est, Var, Alpes-Maritimes et Corse, où les températures restent toujours très élevées. Ailleurs, alors certes, on a un répit par rapport à la canicule, mais on est toujours au-dessus des normales de saison, hein, quand même 3 à 5 degrés. Donc cet après-midi, on devrait aller de 20 degrés à Brest jusqu'à 36 à Marseille, 35 à Perpignan, à Montpellier, à 33 à Lyon-Grenoble, 31 à Clermont-Ferrand, 30 à Paris, Bourges ou Toulouse, 29 pour Bordeaux, 25 à Lille. Faudra encore se méfier des orages pour aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, vers les frontières de l'Est, où localement on pourra avoir des orages assez violents avec de la grêle et beaucoup de vent. Et puis si on a quand même un certain répit au niveau des températures, ça va pas durer puisque dès dimanche, les températures vont à nouveau s'envoler avec une vague de chaleur qui est prévue, qui est vraiment quasi sûre. Reste à savoir si on parlera de canicule, c'est encore un tout petit peu tôt pour le dire.
Merci d'avoir choisi RMC. Excellente journée à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Maintenant, ça passe ou ça casse à la Coupe du Monde. Nous sommes au matin du 16e de finale de la France contre la Suède. Premier match donc à élimination directe de ce mondial pour les Bleus. Nous serons à New York dans ce journal avec nos envoyés spéciaux. On va faire le point aussi sur la chasse à l'homme au lendemain de l'explosion qui a fait 3 blessés dont 2 graves à Monaco. Un oligarque ukrainien certainement visé. Et on reviendra aussi sur cette marche arrière ce matin du gouvernement qui suspend, et on vous dira pourquoi, sa taxe de 2 euros sur les petits colis.
Les choses sérieuses commencent pour les Bleus.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors jusque-là, tout s'est bien passé pour nos Bleus qui ont gagné leurs 3 matchs de poule. Mais désormais, on parle de matchs à élimination directe. Autrement dit, une défaite et c'est fini. Jean-Louis Tour, c'est vous qui allez commenter le match ce soir à New York. Pas le droit à l'erreur ce soir pour les Bleus contre la Suède en 16e de finale.
Oui, c'est un premier vrai test, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Déjà, la motivation des Suédois pour tenir le plus longtemps possible dans un match à la vie, à la mort. La Suède n'est pas forcément plus armée que le Sénégal, que les Bleus ont battu sur le premier match. Mais cette équipe jouera sa survie, et on l'a vu depuis le début des 16e de finale, cette volonté peut suffire à niveler les valeurs. Ensuite, car cette sélection a des armes, surtout en attaque. Le duo Victor Gyökeres-Alexander Isak, auteur de 2 buts et 5 passes décisives depuis le début du mondial, l'Europe se l'est arraché à l'image des 210 millions d'euros qu'ils ont coûté à eux deux, respectivement à Arsenal et Liverpool, des talents qui vont ainsi nous permettre de juger le réel niveau de notre défense, un peu trop mise en difficulté sur le premier tour aux yeux de Didier Deschamps. Parmi les 4 défenseurs qu'il alignera, on notera le retour de William Saliba, ménagé contre la Norvège, et de Lucas Digne, dans une alternance avec Théo Hernandez. Il ne faut pas non plus faire une montagne de la Suède, qui présente des carences en défense, à l'image des 5 buts encaissés contre les Pays-Bas, une équipe qui s'est qualifiée dans la difficulté en passant par les barrages de la zone Europe.
Et donc, on va encore veiller avec vous, Jean-Louis Tour, ce soir, à 23h pour ce match. C'est très tard, encore une fois, depuis le stade de New York, où les Bleus sont très soutenus par leurs supporters qui y croient et qui ont donné de la voix déjà cette nuit avec un rassemblement. Valentin Jamin, vous y étiez, parce qu'on est partout sur RMC, au pied du célèbre pont de Brooklyn.
Oui, par dizaines, ces supporters lèvent leurs écharpes, chantent devant les touristes qui filment. Léger et serein, même si tout pourrait s'arrêter ce soir, Michel, qui agite un drapeau, est tranquille.
Pas stressé du tout, calme, parce qu'on est sur notre force. Je pense que la Suède est à notre portée. Je n'ai jamais vu une équipe de France aussi solide, aussi forte en attaque.
Les 3 victoires en 3 matchs, une première sous l'ère Didier Deschamps, ont impressionné les observateurs du monde entier, mais aussi Pamela, maillot sur le dos, venue en famille.
C'est une des plus fortes de 98 ou 2018. Je pense que celle-ci est une des plus fortes qu'on ait eues. C'est beau, leur jeu est fluide, ils ont l'air serein sur le terrain en plus, donc c'est vraiment cool. On a confiance.
Et les supporters français se retrouvent dans cette équipe spectaculaire, meilleure attaque de la phase de poule, et Loïc se projette très loin.
On est les favoris, aujourd'hui on ne peut plus se cacher. On a un pouvoir offensif qui est unique dans cette compétition. Le but c'est de se venger contre les Argentins en finale et de se rattraper de ce qu'on a connu au Qatar il y a 4 ans.
Mais avant, il faut penser à éliminer la Suède et ne pas imiter l'Allemagne sortie hier par le Paraguay.
Oui, parce que c'est une des informations de la nuit, donc le Paraguay qui a éliminé au tir au but l'Allemagne, sensation de ce mondial, un jour férié a carrément été décrété au Paraguay, et c'est au tir au but aussi que le Maroc s'est qualifié tôt ce matin contre les Pays-Bas. On a vécu ça en direct sur RMC, c'était plein de suspense depuis Monterrey au Mexique, où les supporters marocains ont explosé de joie.
Mais c'est le match le plus délirant de toute la Coupe du Monde. Mon cœur, j'ai vu ma montre, 165 BPM. J'allais mourir, je pensais que c'était la fin. On rate, on réussit, on rate, on réussit. Mais à la fin, on a gagné.
On est très fiers, notre équipe. On est vraiment, vraiment heureux. On va y aller loin dans cette compétition. On est venu ici pour prendre la Coupe et le ramener au Maroc.
Aujourd'hui, ils ont démontré que c'est une équipe aussi bonne que la France, le Brésil, l'Argentine.
Vive le Maroc !
Vive le Maroc !
Et alors, il fallait avoir le cœur bien accroché aussi pour la qualification du Brésil 2-1 contre le Japon avec un but dans les arrêts de jeu. On espère quand même que ce sera donc plus tranquille ce soir à 23h pour l'équipe de France face à la Suède, 16e de finale que vous vivrez donc en direct sur RMC Radio officielle. À 8h05 sur RMC, c'est toujours la chasse à l'homme ce matin dans le sud-est de la France. On est au lendemain de l'explosion qui a fait 3 blessés, c'était hier soir à Monaco où les autorités parlent d'un probable attentat. Un suspect donc a été filmé par des caméras de vidéosurveillance en train de déposer un colis piégé dans un immeuble. Ce colis a explosé, il a blessé 3 personnes dont 2 gravement, un oligarque ukrainien, sa femme et certainement leur enfant de 13 ans. Romain Houk pour RMC, que sait-on de cet oligarque ukrainien ?
Eh bien, il s'appelle Vadim Ermolaïev, il a 58 ans et c'est tout simplement la 23e plus grosse fortune d'Ukraine selon le magazine Forbes qui estime son capital à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est une personnalité particulièrement sulfureuse qui fait partie de ce qu'on appelle le bataillon de Monaco, de riches Ukrainiens qui auraient fui la guerre pour s'exiler dans de fastes villas ou appartements monégasques. Le service d'investigation ukrainien l'a inscrit sur une liste de 84 riches ressortissants ayant potentiellement déserté le pays. Vadim Ermolaïev a créé son empire dans l'immobilier, l'agroalimentaire, même dans le système bancaire. Il a notamment fait fortune dans les vins de Crimée dont il est originaire. Personnalité particulièrement controversée en Ukraine, il fait même l'objet de sanctions promulguées par Volodymyr Zelensky, lui-même depuis 2023, accusé d'avoir poursuivi ses activités en Crimée malgré l'occupation russe. Il est par ailleurs dans le viseur de la Banque Centrale Européenne pour violation de la législation sur le blanchiment d'argent. Quant à l'enquête, elle se focalise sur un homme au chapeau noir filmé par des caméras de vidéosurveillance qui a pris la fuite à pied en direction de Beausoleil, une commune qui jouxte Monaco, où il a à nouveau été filmé avant de disparaître. 40 gendarmes français et 2 hélicoptères participent en ce moment même à sa traque.
La liste s'allonge. Une candidature de plus à la présidentielle à gauche ce matin, vous l'avez appris en écoutant RMC, c'est le député socialiste Philippe Brun qui se lance dans la bataille. Et on verra si le communiste Fabien Roussel sera candidat lui aussi pour cette élection présidentielle. Il sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 8h30 sur RMC. Autre info ce matin, c'est le gouvernement qui fait marche arrière sur les petits colis en renonçant finalement à la taxe de 2 euros qui est en place depuis le mois de mars sur les achats à l'étranger, notamment sur les plateformes chinoises. Cette taxe était censée s'ajouter à une taxe européenne de 3 euros qui entrera en vigueur demain. Finalement, Victor Joannin, vous êtes en direct avec nous ce matin, ce ne sera pas le cas.
Oui, Quentin, la taxe française de 2 euros est suspendue dès demain. Il faut dire qu'elle est largement contournée par Chine, Temu et leurs concurrents qui font atterrir leurs avions cargo en Belgique pour ne pas avoir à la payer, puis qui acheminent les colis jusqu'en France par camion. Alors que la nouvelle taxe européenne de 3 euros s'appliquera partout sur le continent, y compris en Belgique, à compter de demain donc tous les petits colis d'une valeur inférieure à 150 euros qui arriveront sur le sol européen seront taxés 3 euros. Par catégorie d'articles, donc 3 euros par exemple pour l'ensemble des t-shirts contenus dans un colis, 3 euros pour l'ensemble des paires de chaussettes, etc. Cette taxe devait à l'origine s'ajouter à la taxe française de 2 euros, entrée en vigueur il y a 4 mois, mais le gouvernement français décide donc finalement de renoncer à cette taxe française pour ne plus être contourné par la Belgique et pour récupérer une partie du trafic de fret aérien qui avait quasiment disparu. Notre objectif était de pousser l'Europe à prendre des mesures et nous avons obtenu gain de cause, se félicite-t-on dans l'entourage du ministre du Commerce, Serge Papin.
Et autre info que donne le ministre ce matin, c'est la période des soldes qui est prolongée jusqu'au 28 juillet, début de cette période qui a été compliquée en raison notamment de la canicule. Vous savez qu'on redoute un troisième épisode de canicule chez nous en France la semaine prochaine. Bah, c'est pareil aux États-Unis, des températures ressenties à plus de 40 degrés sont attendues dans les prochains jours. Et alors à New York, eh bien les autorités recommandent la climatisation, en estimant que c'est le moyen le plus efficace pour éviter les maladies et les décès liés à la chaleur, en particulier chez les personnes âgées.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Les conducteurs sans assurance sont de plus en plus nombreux. C'est une mauvaise nouvelle.
Oui, 5,8% des véhicules impliqués dans un accident grave n'étaient pas assurés en 2025. C'est ce que nous dit l'étude que vient de publier le Fonds de garantie des victimes. 5,8% donc en 2025. Il n'était que 3,5% en 2018. Il faut rappeler que lorsqu'un accident de voiture est provoqué par un conducteur qui n'est pas assuré, eh bien, c'est ce fonds de garantie des victimes qui prend le relais des assureurs pour indemniser les victimes. Au total, 7500 personnes ont été accompagnées en 2025. C'est un peu moins qu'en 2024, sauf que ces accidents ont été plus mortels et ont coûté plus cher au fond, parfois des millions par accident. Le fléau, c'est aussi la forte augmentation des accidents de trottinettes électriques, presque 10% de hausse sur un an. Ils sont plus nombreux que l'ensemble des accidents de tous les deux roues. Donc c'est vraiment une très forte augmentation. Et on rappelle que la moitié des conducteurs de trottinettes ne seraient pas assurés.
Qui sont ces conducteurs qui roulent sans assurance ?
Alors, les ouvriers, étudiants et personnes au chômage ou sans activité sont majoritaires parmi les conducteurs non assurés. La moitié ont moins de 30 ans et résident souvent en région parisienne. Alors on comprend bien pourquoi ils ne s'assurent pas, hein, parce que ça coûte trop cher. Alors rappelons que le défaut d'assurance est sanctionnable d'amendes pouvant aller jusqu'à 3 750 euros, que les contrôles de la police sont de plus en plus efficaces pour repérer ceux qui n'ont pas d'assurance, que l'assurance est obligatoire pour les trottinettes. Pour 60 euros par an, vous avez très facilement une assurance trottinette. Et puis surtout, en cas d'accident, eh bien, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qu'il faudra rembourser au fonds de garantie. Ça ruine toutes les vies concernées par ce genre d'accident.
Et puis les chiffres du jour, ça se stabilise, Emmanuel.
Alors c'est le mot, tout est stable aujourd'hui. Le gazole, 1,88€, le sans-plomb 95, 1,89€. Là on est sur des baisses de à peine un centime en une semaine. Le pétrole, stable, $72.80 le baril. Et puis le gaz, toujours 42€ le mégawatt.
Ça veut dire qu'il y a un plancher en quelque sorte.
Il y a exactement.
Merci Emmanuel. Il est 8h11 sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demanche revient pour nous faire rire à 8h30. Notez-le, mon invité dans le face-à-face, ce sera le patron du PCF, du Parti communiste, Fabien Roussel. Face à la canicule, la réponse du gouvernement n'a pas été à la hauteur. Voilà ce qu'il dénonce. Et puis j'interrogerai aussi sur ces petits colis. Est-ce qu'il faut continuer à culpabiliser d'ailleurs les acheteurs de Chine, de Temu? Et puis la France qui fait machine arrière, vous l'avez vu, marche arrière sur la taxe sur les petits colis. Il renonce. Juste après, il y aura le choix de la rédaction, ça ce sera à 8h50, Mathieu.
Oui, comment lutter contre le surtourisme un peu partout. En France, les destinations les plus visitées s'organisent pour limiter le nombre de visiteurs. Et puis à 23h, premier match à élimination directe des Bleus. C'est ce soir sur RMC, France-Suède, les toutes dernières infos à 8h50.
On se retrouve dans un instant sur RMC, 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour.
Il est
à
avec
tous.
Nous, salut Arnaud.
Bonjour Apolline. Élise.
Coucou.
Géraldine.
Mathieu.
Ah, dis donc, Apolline. Bravo. Alors vraiment, bravo.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Vraiment. Voilà, je viens d'entendre sur votre antenne le député Philippe Brun.
Ah oui, j'en ai rajouté un.
PS, ouais. Annoncer sa candidature. Je vous laisse 2 secondes sans surveillance. Vous nous sortez un nouveau candidat à la présidentielle. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Comment? Faut éteindre les lumières du studio, hein, ça les attire. Allez, ce soir, la France affronte la Suède.
On est dans le noir.
Parfait. Allez, ce soir, la France affronte la Suède en 16e de finale de la Coupe du Monde. Musique. Alors, qui a chanté ça? Qui a chanté?
Eh bien, là, j'avoue, je. Non.
Eh bien, c'est un disque made in RMC. Ah. C'est Jean-Pierre Foucault et Léon en 78. C'était les deux animateurs phares de RMC à l'époque. C'est un peu comme si Apolline sortait un disque avec Gilbert Bribois. Si
je prends.
Oui. Qui sait le plus fort? Évidemment, c'est les Bleus. Allez, Apolline, chante, danse, mets tes baskets. On t'écoute, encourage nos Bleus.
Chante.
D'accord. Allez Griezmann.
Ouais bon, finalement c'est mieux si tu fais des interviews de Bruno Retailleau.
Bref, après avoir écrasé la Norvège, on passe à la Suède. Les pays scandinaves, ils vont avoir plus peur de Mbappé que de Poutine. Et on n'en est qu'au 16e de finale, hein. C'est interminable cette compétition. On en est à 232 matchs, 128 équipes. J'ai une copine là qui me disait: j'ai commencé à regarder le mondial célibataire, je vais le finir avec 2 enfants et une pension alimentaire. Vous avez vu les scores de cette nuit? Le Paraguay a battu l'Allemagne. Quand même.
Donc l'Allemagne a un peu gagné finalement, parce que le nombre de paisibles citoyens germaniques qui sont partis en Amérique du Sud en villégiature en 45, ça fait que... Et un des gros favoris, c'est l'Argentine. Leur moitié de tableau, elle est quand même très cool. Vous avez vu, ils vont affronter le Cap-Vert. Après, c'est soit l'Australie, soit l'Égypte. Et derrière, le plus redoutable, c'est la Suisse, quoi. La FIFA, s'ils avaient pu leur programmer Gibraltar ou le Vatican, ils l'auraient fait. C'est 11 vieux qui se prennent les pieds dans la soutane et qui draguent Messi.
Mais t'es tout petit, mon petit bonhomme. Je ne suis pas un enfant. Je suis Lionel Messi. Mais tu me rappelles quelqu'un. Je ne suis pas maire de Nice non plus.
Alors, Gabriel Attal qui veut surfer sur la Coupe du Monde et l'engouement autour des paris sportifs.
Oui, parce qu'il vient de sortir, vous avez peut-être vu, un concours de pronostics. C'est sur son appli de campagne, Gabriel, sur l'appli Attal Président.
D'accord.
Il y a des petites vidéos où il parle, il dit « Je pronostique 2-1 pour la France, et si tu me bats en pronostic, il y a une surprise. » Et c'est quoi la
c'est
surprise?
C'est quoi la surprise? C'est la c'est question que j'allais vous poser, c'est comme si la tombola.
Si vous trouvez tous les scores des Bleus, vous devenez Premier ministre.
Ah ouais.
Il n'y a pas le choix, hein. tous mes soutiens, ils se barrent. Vous avez vu, il a perdu Maud Bréjon hier.
Ouais.
Alors c'est dommage, mais moins que s'il avait gagné, Maud Bréjon.
Oh.
Alors, j'espère qu'il ne mise pas toutes ses économies en paris sportifs, Attal. Sinon, Macron, il va gueuler. Gabriel, je peux savoir ce que tu fais avec ton téléphone et ma carte bleue? Attendez, papa président, j'ai trouvé un moyen de combler la dette du pays. Je vais la jouer sur Winamax. Mais enfin, t'as mis 1 milliard sur la victoire des îles Curaçao face au Brésil. T'es ma boule. Ouais, t'as confié les finances du pays à Bruno Le Maire, hein, t'es joueur aussi. Alors, au prochain face-à-face entre Apolline et Gabriel Attal, et ben on aura ainsi deux experts du ballon rond. Gabriel Attal, pensez-vous qu'Adil Rami peut marquer ce soir contre la Suède? Madame de Malherbe, c'est impossible. Il est défenseur, Adil Rami. Non, moi je vois plus Teddy Riner marquer le deuxième essai dans le troisième carton. Mais Gabriel Attal, il n'y a pas de carton au foot, vous confondez avec le Tour de France. Et il y a Gilbert Bribois qui va débarquer en hurlant « Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est ce bordel, la plus de l'honneur !» C'est la dernière semaine.
Oh ouais, enfin, là, vous avez
on lâche les élastiques.
Arnaud, on en sait un peu plus sur la venue du pape Léon XIV à Paris à la rentrée.
Oui, il va faire une messe géante à Paris en septembre, place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. Macron, il va être jaloux. Et ça va, hein? Moi aussi, j'ai réussi à attirer la foule sur les champs. Bon, alors, le pape, il a remplacé les gilets jaunes par des chasubles blanches, mais sinon, c'est pareil, hein. Jésus, il s'est fait aimer en rendant la vue aux aveugles. Moi, j'ai rendu aveugle des gens qui m'aimaient pas. C'est pareil.
C'est sûr.
Alors, j'espère que les supporters du pape seront moins chauds que ceux du PSG, qui aura pas de casseurs. Vous imaginez tous les chroniqueurs de CNews, Christine Kelly et Philippe Bilger et Philippe De Villiers, qui jettent des pavés dans les vitrines.
Taillot! Alléluia! Christine, prenez ce pavé et brisons toutes ces vitrines impies.
Oh oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est très lourd. Je n'arrive pas à lancer ce projectile.
Donnez-le-moi.
Oh oui.
Suce boutique hérétique. Les halal aux vêtements. Les Levis, les Pravda, je vais allumer un incendie dans un quick halal. Attendez, Philippe, je vais vous aider à allumer cet incendie. Mais Philippe Bilger, vous avez tout éteint mon incendie. Allez, on va tout casser, sauf la vitrine de Christian Lacroix.
Oh oui, et à demain. Et gros bisous.
Ah. Oh mon Dieu, à demain, Arnaud.
Oui, c'est mon nom, c'est Arnaud Demange.
On va avoir du mal, là, il est 8h20.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il y a Stéphanie, Stéphanie qui nous appelle de Saône-et-Loire, qui est professeure des écoles. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Vous êtes un peu superstitieuse ce matin, non? Vous avez peur qu'on soit trop confiant sur le match de ce soir?
Oui, c'est tout à fait ça. Oui, j'ai pas du tout envie. Alors, j'ai confiance, hein, l'équipe de France, on a des sacrés joueurs, on a les meilleurs, je pense parmi les meilleurs joueurs au monde. Mais je voudrais pas qu'on soit déçu ce soir avec un but à la dernière minute comme hier.
Vous préférez qu'on la joue modeste, qu'on la joue un peu profil bas, qu'on y aille tranquille, quoi.
Ouais. Franchement, oui.
Je suis d'accord.
Oui.
Ah, mais il y a un signal qui est envoyé sur les grosses équipes quand même. Le Brésil qui a eu les plus grandes difficultés avec le Japon,
oui.
L'Allemagne éliminée, les Pays-Bas.
Ouais, c'est pour ça que Stéphanie elle flippe.
Pas y aller.
Mais Stéphanie, vous allez pouvoir en profiter tranquille ce soir parce que c'est la dernière journée d'école là, non?
Ah non, on a encore jeudi et vendredi.
Ah, vous avez encore jeudi et vendredi.
Oui.
Et alors du coup, vous allez vous retrouver effectivement à mais demain il y a pas école. C'est
demain,
ça.
Demain il y a pas école.
Donc ce soir, vous pouvez être complètement tranquille, 23h, pas de problème.
Oui.
Voilà.
Mathieu, on revient quand même demain matin.
Mathieu aurait voulu faire comme vous, Stéphanie Lagrasse, pas demain matin, mais non.
Fils va voir le match et pas moi.
Je serai pas grasse mat, moi, demain matin. Non. J'ai des rendez-vous demain matin, je pouvais pas rater un match, même si c'était 3h du matin, il est hors de question.
On sent que vous êtes au taquet, il y en a certains qui ont déjà prévu une petite sieste. Une petite sieste en fin d'après-midi et hop.
Moi, par exemple.
Ah, voilà. Arnaud et Mathieu, vous allez louper le match?
Moi, je crois que je vais louper celui-ci.
Voilà.
Je crois, c'est le dernier que je loupe.
On est obligé de faire des stratégies.
Il y a un moment pour réfléchir, on est que mardi, quoi.
Merci Stéphanie, bon courage pour la dernière semaine de cours. Effectivement, Stéphanie qui est professeure des écoles en Saône-et-Loire. Il est 8h22, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, c'est la politique. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui est mon invité dans le face-à-face. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste français. Vous êtes aussi maire de Saint-Amand-les-Eaux. Très nombreuses questions à vous poser ce matin et aussi sur la position du Parti communiste dans l'élection présidentielle. Mais d'abord, sur la canicule. Vous avez écrit ces mots, la France crève de chaud pendant que le gouvernement laisse les Français étouffés dans les transports, au travail, dans les logements mal isolés. Ceux d'en haut vivent sous climatisation. Alors, le plus dur de la canicule est derrière nous, mais un nouvel épisode est sans doute à venir dès le début de la semaine prochaine. Est-ce que le gouvernement a laissé crever, pour reprendre vos mots, est-ce qu'elle a laissé crever les Français?
C'est un coup de colère, parce que, comme beaucoup de mes collègues maires, on s'est retrouvés face à une situation terrible de canicule, et on est en colère, surtout parce qu'il y a une forme d'inaction de la part du gouvernement. Ça fait des années, et des années, je dirais même des décennies, que les climatologues alertent en disant « il y a le réchauffement climatique qui est là, il faut changer nos modes de consommation, nos modes de circulation, nos modes de production, travailler sur les logements, l'isolation des logements, l'adaptation de notre société, parce que il y a le réchauffement climatique. Il est là. Donc, de toute façon, il faut s'adapter. Et en même temps, il faut aussi faire en sorte que ce réchauffement ne s'accélère pas. Et donc, il faut travailler sur des mesures de long terme. Il faut du court terme et du long terme, et sur les deux leviers, je regrette qu'il n'y ait pas eu les mesures, les ruptures qu'il fallait mettre en place.
Est-ce que vous considérez, il y a plein de questions dans ce que vous soulevez, et notamment aussi la question d'une inégalité face à la canicule. Vous dites ceux d'en haut vivent sous climatisation, on sait que c'est aussi les plus modestes qui ont été les plus touchés, mais Fabien Roussel, je vous repose la question, vous dites le gouvernement laisse les Français étouffer. Est-ce que le gouvernement a une responsabilité? On a évoqué pour l'heure un premier bilan, 1000 morts supplémentaires. C'est ce que Santé publique France annonce. 57 morts rien qu'hier en région Île-de-France, directement liés à la canicule. Est-ce que le gouvernement a une responsabilité dans ces décès?
Le gouvernement, il a une responsabilité quand il baisse les moyens donnés aux bailleurs sociaux et au logement social. Il a une responsabilité quand il baisse les moyens du fonds vert. Il a une responsabilité quand il baisse les moyens de la rénovation des maisons particulières et privées. Il a une responsabilité quand il baisse les moyens, quand il pompe les moyens au transport public et qui fait qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de prendre le train que de l'avion. Sur tous ces sujets, oui, il a une responsabilité. Il a une responsabilité quand il ne donne pas les moyens au budget de la sécurité sociale pour que nos hôpitaux, nos soignants puissent travailler dans de bonnes conditions et que les personnes malades soient dans des chambres qui soient fraîches et climatisées. Oui, de tout ça, on n'en peut plus. C'est pour ça qu'on a besoin de changer d'air dans les deux sens du terme et donc une nouvelle ère politique qui tienne compte des bouleversements climatiques et qui mette en place et des mesures d'urgence d'urgence, j'espère qu'on va en parler. Oui, il faut de la clim, il faut mettre des volets, il faut isoler les toits des bâtiments parce que c'est une urgence, que ceux qui sont tout en dessous des logements sociaux sont ceux qui souffrent le plus. Il faut adapter le travail des salariés, mais il faut aussi investir sur le long terme, investir dans le mix énergétique, investir dans l'isolation des bâtiments publics, rendre les transports publics moins chers. Nous avons travaillé sur tout
ça. Vous avez un gros plan.
Nous avons travaillé. Nous sommes
empreinte 2050, ça s'appelle plan climat pour la
nous
France.
Nous sommes la seule force politique, je le dis, la seule. Je mets les autres défis de travailler à une trajectoire neutralité carbone d'ici 2050 comme nous l'avons fait sur tous les sujets agriculture, logement, déplacement, production, industrie, services publics qui montrent quelle trajectoire la France doit prendre pour justement réduire ses émissions de gaz à effet de serre et en même temps adapter notre pays aujourd'hui à l'urgence
donc
climatique.
Donc les deux, l'urgence et le long terme. Mais Fabien Roussel, vous venez d'évoquer la question des logements sociaux. En Espagne, ils ont décidé d'imposer la clim dans les logements sociaux. Est-ce qu'il faut faire pareil ? Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux, tout comme ils ne loueraient pas un appartement sans chauffage, sans ascenseur, et encore on sait que souvent ils tombent en panne, est-ce qu'il faut imposer que ces logements sociaux aient la clim ?
Mais oui, dans certains cas.
Mais c'est-à-dire mais quoi, dans certains cas,
il y a parce qu'il y a des endroits.
La clim, c'est-à-dire la chaleur, non, elle a touché tout le
territoire. Mais parce qu'il y a des endroits, c'est la clim qu'il faut mettre en place. Il y a d'autres endroits, j'en ai parlé avec Yann Brossa sur Paris, qui a beaucoup
Yann Brossa,
été,
élu communiste à Paris.
Qui a été en première ligne aussi avec ses collègues ici à Paris sous la canicule. Et donc, je disais, ceux qui habitent au dernier étage, là où ça chauffe le plus, là, l'urgence, c'est de mettre en place tout de suite une isolation au moins du toit. Il y a ceux qui sont orientés vers le sud et ceux qui sont orientés vers le nord. Il y a des endroits,
pour les uns et pas clim pour les autres.
Mais c'est pour ça qu'on doit travailler, ville par ville, bailleur par bailleur, sur les meilleurs moyens pour répondre aux urgences qui aujourd'hui s'expriment. Et il n'y a pas une solution. Celui qui dit, comme le Rassemblement National, avec la clim, on règle tout, c'est du vent. Il brasse de l'air, le Rassemblement National, c'est du cinéma. Il n'y a pas que la clim qui va régler les problèmes. Ce serait tellement si simple si c'était ça.
Si je vous pose cette question, c'est que c'est un gouvernement de gauche en Espagne qui décide de dire la clim doit être dans tous les logements sociaux, dans certaines villes.
Je n'oppose pas. Oui, il faudra investir dans de la climatisation. Dans les logements
Est-ce que c'est les bailleurs sociaux qui doivent le faire ?
Oui, c'est pour ça que nous demandons des moyens aux bailleurs sociaux. C'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme. C'est pour ça que nous réclamons d'ailleurs un véritable plan Marshall pour le logement. Rénovation des logements privés. Nous demandons à ce que le budget de l'ANA, il passe à 12 milliards d'euros contre 4 aujourd'hui pour rénover 700 000 logements par an. Nous demandons que les bâtiments publics bénéficient de 5 milliards d'euros supplémentaires pour que nous, les communes, les collectivités, les hôpitaux puissent rénover les bâtiments publics. Nous demandons 3 milliards pour les logements sociaux pour justement mettre de la clim, des volets, de l'isolation. C'est une urgence. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un véritable plan Marshall qui fasse et de l'urgence et du long terme. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, ils vont devoir choisir la priorité de ceux qu'ils doivent soigner ou laisser mourir.
Plan,
c'est grave quand même.
Il y a
ce plan
100 millions de clim d'urgence qui a été débloqué par le gouvernement. Ça vous semble à la hauteur ?
C'est de l'urgence. Le gouvernement aujourd'hui fait ce qu'il peut parce que ils ont pas mis les moyens avant. Donc je vais pas dire que c'est pas bien, il faut le faire. Et nous en avons besoin dans toutes les communes. Nous en avons besoin. Les communes, nous on a dû activer un plan.
Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Amand-les-Eaux.
Face à la canicule, j'ai décidé de déclencher le plan communal de sauvegarde. C'est notre plan blanc à l'échelle d'une commune pour mobiliser dans l'ensemble des services, réquisitionner les bâtiments publics qui sont aujourd'hui climatisés. Mais on est démunis face à tout ça. Ouais. J'ai besoin que l'État nous accompagne beaucoup plus dans la rénovation de nos bâtiments, dans justement l'achat c'est pas l'achat de clim portable, c'est climatisé. C'est climatiser des écoles.
De manière structurelle.
Mais bien sûr. Et ça, il faut qu'on le fasse dans l'année qui vient, jusqu'aux prochaines canicules.
Est-ce que vous avez à déplorer des décès supplémentaires chez vous, à Saint-Amand?
Justement, non. Je touche du bois pour l'instant, et on sait qu'il y a toujours un temps.
Un peu un décalage.
Un décalage. Mais je voudrais saluer l'ensemble des agents publics sur l'ensemble de notre territoire national, comme à Saint-Amand-les-Eaux, qui ont passé des coups de fil deux fois par jour aux personnes vulnérables, âgées ou pas âgées, mais qui vivaient parfois dans des logements surchauffés, et à qui on téléphone deux fois par jour pour savoir est-ce que vous avez besoin d'eau, est-ce qu'il faut passer chez vous pour fermer les volets ce soir, est-ce que vous avez besoin d'un logement d'urgence. Ce sont des agents de la fonction publique, souvent des catégories C, mal rémunérés, je dirais, et qui sont en première ligne. La solidarité nationale, c'est aussi grâce à ces agents de la fonction publique, heureusement qu'ils sont là. Et nous n'en avons pas assez pour justement faire face à ce genre de canicule.
Vous avez dit, Fabien Roussel, il y a des hôpitaux où ils vont devoir choisir ceux qu'ils arrivent à soigner et ceux qu'ils laissent mourir. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que les services publics, d'ailleurs en général, que ce soit l'hôpital, mais on a évidemment, on sort à peine du drame de Liana. Hier, je recevais aussi le père de Louis qui racontait combien l'aide sociale à l'enfance avait, semble-t-il, failli aussi à protéger son propre fils. Est-ce qu'aujourd'hui, on est face à des services publics qui ne savent plus protéger les Français?
On a des services publics qui ont été tellement affaiblis, qui sont aujourd'hui à l'os, comme on dit, et qui ont bien du mal à faire face à toutes les missions qui leur tombent dessus. Entre la canicule, qui fait une surcharge de travail pour les hôpitaux, pour les agents communaux, etc. La violence, la délinquance, qui fait que il y a plus d'enfants à s'occuper, à suivre, la PJJ, l'aide sociale à l'enfance, les tribunaux, la gendarmerie, la police. Enfin, vous voyez que dans tous les secteurs, les services publics sont en souffrance. Comment vous dire ? Nous sommes de ceux qui, à gauche, et toute la gauche porte cette exigence de redonner des moyens à nos services publics. Ils ont été pointés du doigt comme responsables de la dette, comme si c'était eux qui coûtaient cher à la France, alors qu'en fait, ils sauvent des vies. Et investir dans les services publics, c'est justement peut-être faire des économies demain, parce que quand on fait de la prévention, quand on s'occupe de nos enfants, quand on a les moyens de les protéger, c'est moins de drames, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Vous savez que sur la canicule, on va bientôt avoir plus de morts liées à la canicule que sur les accidents de la route. On en est là aujourd'hui.
Fabien Roussel, vous dites on a un problème de moyens. Gérald Darmanin, hier soir, dit encore imputer la question du drame et du dysfonctionnement majeur dans la mort de Liana à un problème de moyens, c'est ne pas vraiment cerner le problème. Est-ce qu'il y a un problème de moyens? Est-ce qu'il y a un problème de personnel? Est-ce qu'il y a un problème de serviteurs de l'État?
D'abord, il y a une enquête administrative qui a été faite. Cette enquête administrative, elle révèle quand même
des
dysfonctionnements et un manque de moyens. Donc moi, je ne vais pas dire c'est tout blanc ou tout noir. Mais
cette enquête, elle pointe aussi des responsabilités individuelles.
Bien sûr. Et elle pointe aussi des problèmes de moyens. Et ce gouvernement ne veut pas voir qu'il y a un besoin immense, urgentissime, de redonner des moyens à la justice, à la police de proximité, à la gendarmerie, aux moyens d'enquête, mais aussi des travailleurs sociaux, mais aussi à la PJJ pour nos enfants, au médico-social. Ce drame avec ce jeune Louis qui est placé dans une famille d'accueil, faute de place dans des
foyer. Il est
faute de place dans des établissements de médico-social.
On sentait une immense détresse
que j'ai vu, tout à fait.
Plus de la très grande douleur. Il dit j'ai frappé à toutes les portes, c'est-à-dire qu'il avait un enfant qui
tout
était difficilement gérable, qui faisait un certain nombre de crises, qui avait des troubles de l'attention. Il dit j'ai demandé de l'aide partout. Finalement, on lui dit que l'aide sociale à l'enfance et le fait de le mettre en foyer pendant quelques temps. Et il dit, mon fils a porté plainte pour des violences le 12 mai. Il n'a même pas été au courant. C'est-à-dire que le fils a 17 ans, il est mineur. Personne n'appelle ni la mère ni le père.
Mais c'est pour ça que quand je l'ai vu hier, dans votre émission, je me suis mis à sa place. Comme beaucoup, on se met à la place du père. Comment on aurait réagi? Vous imaginez qu'on a un enfant qui est atteint de TDAH, trouble du comportement.
Il n'a pas de solution.
Il demande à l'État de protéger son enfant.
Exactement.
Et son enfant meurt dans des circonstances les plus horribles, dramatiques. Mais c'est insupportable comme colère.
On en veut à la société, on en veut à l'État. Face à cette ultra-violence, quelle est la réponse pénale qu'il faut apporter? Est-ce qu'il faut, comme le dit Gabriel Attal hier, revenir sur l'excuse de minorité?
Vous voyez bien que ce père, il dit pas ça.
Il dit pas ça.
D'ailleurs, il soutient les personnels de l'aide sociale à l'enfance en disant ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance a bien du mal à recruter. Il leur manque près de 30 000 postes à pourvoir. La PJJ, la prévention de la jeunesse dans la police, manque lui aussi de moyens pour pouvoir encadrer les délinquants qui font l'objet de mesures de justice et qui sont dans la nature, parce que la police n'a même pas les moyens de les suivre. Il y a une faute de l'État, un manquement de l'État qui est ultra gravissime. Et j'en reviens à la politique que nous devons avoir en direction des services publics. C'est la protection de la nation, du peuple. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'investir fortement dans toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont sous-payés, mal reconnus, dont on dit qu'ils coûtent cher alors qu'on a besoin d'eux.
Sinon, vous en êtes où, vous, Fabien Roussel?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire par rapport à l'élection présidentielle, à votre position, LFI d'un côté, Parti Socialiste de l'autre.
Non, mais là, vous en êtes Pauline de Malherbe, on passe de... des drames que l'on vit en ce moment et vous basculez sur
l'élection présidentielle. Et vous avez commencé Fabien Roussel en disant c'est pour toutes ces raisons qu'il faudra changer d'air.
Ah, c'est sûr.
Vous ferez comment pour faire changer d'air?
Eh bien justement, je pense qu'il y a besoin de mettre en place un programme de rupture complet avec ce que les Français vivent aujourd'hui, c'est changer d'air Macron, parce que 10 ans de macronisme, on en souffre.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura une candidature du Parti communiste?
Ça veut dire, je le souhaite et je la défends, et les communistes ont 6 mois pour en débattre pendant 6 mois, ça a commencé au mois de mars, ce sera terminé par un vote au mois de septembre. Moi, je défends le principe de cette candidature parce que justement, il y a besoin.
Quand vous entendez Philippe Poutou qui dit il faut tout être derrière Jean-Luc Mélenchon,
d'un programme,
vous n'êtes pas d'accord.
Moi, je veux parler du programme de rupture, ce que l'on va défendre auprès de nos concitoyens, justement en matière de service public, de pouvoir vivre. Dignement, avec un salaire, un travail. Vous savez que ça, l'empreinte
votre
climat,
plan.
C'est plus d'un million d'emplois créés. Investir dans la planification écologique, c'est aussi une opportunité économique pour créer des emplois, offrir des alternatives à la jeunesse.
Quand on regarde le nombre de candidatures...
voulons pas avoir à choisir entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann ou un autre de la social-démocratie, parce que sur les programmes, nous ne nous retrouvons pas. Et donc, nous voulons justement que nos concitoyens aient le choix. Et cette question de pouvoir vivre dignement, mettre en place un programme pour le climat dans lequel il y a des différences notables avec les autres, pouvoir parler de la paix dans le monde, la paix en Europe, où là aussi nous avons des différences avec les uns et les autres. Nous voulons pouvoir faire en sorte...
Vous ne vous sentez pas proche des positions de Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine, par exemple?
Mais l'élection
présidentielle... Quand vous dites qu'on a des différences, ça veut dire quoi?
L'élection présidentielle sera l'occasion de présenter chacun son programme devant nos concitoyens. Moi, je ne veux pas passer mon temps à critiquer les autres, je veux convaincre les Français. Je veux faire en sorte de reconquérir cet électorat de gauche qui manque aujourd'hui à la gauche pour pouvoir être majoritaire et l'emporter.
Vous vous interdirez pas d'y aller vous-même?
Mais ça, c'est les communistes qui décideront. En tout cas, j'ai dit que j'étais disponible, prêt à y aller. Ma candidature, comme on dit, est à la disposition du Parti communiste français. Et je respecte tellement la démocratie que j'en dirai pas plus, parce que c'est nous qui déciderons démocratiquement de nos choix.
Chez
nous, il y a de la démocratie.
Chez vous, il y a de la démocratie. J'entends, chez nous, effectivement, il n'y a pas eu de vote du côté de LFI. Un mot d'ailleurs sur les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon, notamment autour du 7 octobre, puisqu'il a eu ces mots au minimum ambigus. Il nous faudrait faire croire, en effet, qu'il y aurait parmi nous des gens qui se réjouiraient du terrorisme. Et il ajoute, à supposer que les actes dont on parle soient bien du terrorisme. Il parle là des massacres du 7 octobre. Comment vous avez réagi à ça?
J'avais pas vu cette déclaration, donc j'ai pas réagi. Mais ce que je sais, c'est qu'on nous clairement pris position. J'ai été interrogé à France 3 le quelques heures après, et nous avons tout de suite dit que c'était un acte terroriste.
Ça veut dire que vous estimez, vous, qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Alors,
nous avons
au minimum de l'ambiguïté.
Clair, il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur la qualification de cette acte, de cette barbarie qui s'est déchaînée le 7 octobre.
Est-ce que ça veut dire
nous avons été aussi extrêmement clairs sur la solution politique que nous défendons pour la reconnaissance de la Palestine, qui a le droit à un État vivant aux côtés de l'État israélien, et donc pour une solution politique à deux États. Et là aussi, nous avons été sans ambiguïté. Je sais qu'en ayant cette position-là, nous n'avons pas fait le buzz. Parce que nous, ça fait 60 ans que nous nous battons sur cette même ligne. De Georges Marchais à Yasser Arafat, jusqu'à Marie-Georges Buffet, Pierre Laurent, moi-même. Nous avons toujours travaillé aux côtés de l'OLP pour défendre une Palestine libre, démocratique et laïque.
Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux,
d'un État israélien.
Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, Fabien Roussel, ça fait partie des lignes de fracture, ce rapport-là, à cette question-là, avec, par exemple, les filles?
En fait, je regrette qu'il y ait cette différence parce que, justement, le peuple palestinien a besoin d'un mouvement très, très large, très unitaire pour être entendu. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que, là-dessus, il n'y ait aucune ambiguïté sur le soutien que nous apportons au peuple palestinien et la solution politique que nous défendons. Et le terrorisme ne sera jamais, jamais pour nous une voie de passage pour faire entendre sa voix.
Vous avez un pronostic pour ce soir, pour les Bleus ?
Je dirais 2-1 pour la France. Nous avons la plus belle attaque, une des meilleures défenses. Et en même temps, ne soyons pas trop sûr de nous. Je vois aussi que des équipes sur lesquelles on ne pariait pas peuvent mettre en danger d'autres équipes comme l'Allemagne
cette nuit
ou le Brésil.
En sortant l'Allemagne. Exactement. Ou en sortant encore les Pays-Bas. Merci Fabien Roussel.
Merci à vous.
Vous veillerez donc
invitation.
Ce soir. Secrétaire national du Parti communiste français et maire de Saint-Amand-les-Eaux. Oui, vous me donnez votre programme. Je vais lire Empreinte 2050. Plan pour la France. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, il est 8h48 sur RMC, l'heure du choix de la rédaction. On va lutter contre le surtourisme. On vous emmène au Mont-Saint-Michel dans un instant. Et puis le Mondial de Virginie. Ah, aujourd'hui c'est jour de match pour les Bleus. Premier match à élimination directe, France-Suède. Restez bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC, le Mondial de Virginie. C'est avec vous Virginie Fulpin dans un instant. Avec vous toutes les dernières infos sur le Mondial avant le 16e de finale des Bleus ce soir. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Martin Lange, correspondant à RMC dans l'Ouest. Bonjour Martin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec vous, on s'intéresse au surtourisme. Ces lieux pris d'assaut l'été, faut-il faire comme Venise et mettre en place un péage pour entrer dans la Venise qui vient de mettre en place un péage pour entrer dans la cité des Doges. Chez nous aussi, des sites sont confrontés au surtourisme. C'est le cas du Mont-Saint-Michel, Martin.
Oui Mathieu, le premier site touristique du pays hors Île-de-France, près de 3 millions de visiteurs par an, et même en dehors des vacances scolaires, il y a beaucoup de monde, je l'ai constaté hier, des parkings pleins, de la queue pour prendre la navette et des rues pavées bondées. Jean-Marc Kobach est guide depuis près de 40 ans et pour fuir la foule, il m'a emmené sur une petite plage à l'extérieur des remparts.
J'adore venir ici, c'est qu'il n'y a, vous pouvez le constater, il n'y a personne. Ce qui est d'autant plus rare au Mont-Saint-Michel. Ce qui est insupportable, que ce soit pour ceux qui travaillent, ceux qui visitent, c'est la surfréquentation. Ça grouille, ça gueule, ça sent la frite. Je pense qu'à un moment, on devrait imposer des jauges. Pour des raisons de confort évidentes, mais également pour des raisons de sécurité et de conservation. Certains jours d'été, si on devait évacuer la rue principale, ce serait l'horreur. On n'y parviendrait même pas.
Alors, ces jauges, est-ce qu'on les envisage vraiment au Mont-Saint-Michel, Martin ?
Eh bien, pas du tout, Mathieu. J'ai posé la question à Hervé Biergeon. Il est directeur du développement et de l'accueil du public.
On ne fait aucune restriction, mais on est plutôt dans la recommandation. Et le Mont-Saint-Michel est une commune. Et dans les communes françaises, la loi de la République dit que on est libre de circuler comme on veut. Donc, c'est pas un parc de loisirs. On est conscient, en fait, qu'il y a du monde, mais on a tout à fait la capacité à accueillir tout le monde correctement.
Pas question non plus d'installer un péage comme à Venise, même si dans les faits, le stationnement 24 euros les 6 heures en période estivale oblige les visiteurs à payer. Selon lui, seule une quinzaine de dates pose réellement problème entre les ponts de mai et le mois d'août.
Mais alors Martin, il y a certains sites français qui ont pourtant adopté ces jauges.
Oui, pas très loin du Mont-Saint-Michel, sur l'île de Bréa par exemple, pas plus de 4700 visiteurs par jour, ou encore dans les Calanques près de Marseille depuis bientôt 5 ans. Si vous voulez visiter la Calanque de Sugiton l'été, il faut réserver à l'avance et seules 400 places sont disponibles. Gaëlle Berthaud la directrice du parc national.
Le bilan, il est largement positif. Une nature qui reprend ses droits. On a donné un électrochoc à nos usagers pour leur ouvrir aussi les yeux sur la nécessité de préserver cet espace. Le parc national des Calanques, qui a fait partie des premiers espaces naturels à avoir mis ça en place. Et aujourd'hui, on a plutôt plusieurs espaces qui viennent nous voir, espaces naturels, pour nous demander comment on a fait.
La mairie de Chamonix s'est notamment renseignée, elle qui voit plus de 1500 personnes visiter son lac blanc chaque jour l'été.
Alors un système de réservation gratuit, contrairement au péage de Venise.
Oui Mathieu, et c'est ce qui évite toute discrimination par l'argent. Et pour ceux qui veulent visiter ces lieux d'exception, la clé c'est d'anticiper, selon le géographe Rémi Knafou.
C'est vraiment une question d'avoir compris comment fonctionne le tourisme aujourd'hui dans un monde qui est plein, avec plus de 8 milliards d'habitants. Et ceux qui ont compris ça, s'y prennent un petit peu à l'avance et réservent. Quand la réservation est gratuite, il n'y a aucune sélection.
Même s'il existera toujours une discrimination ou une sélection entre ceux qui peuvent partir quand ils le souhaitent et les familles bloquées par les dates de vacances scolaires.
Merci Martin Lange, correspondant d'RMC dans l'Ouest. Allez, début des choses sérieuses à la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous, le journal de la Coupe du Monde ce matin avec vous bien sûr. Et ça y est, on connaît déjà les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale.
Les matchs à élimination directe ont commencé, ça y est, on a le Maroc qui s'est qualifié cette nuit au bout du suspense. Et c'est le moment en fait où on ne dort plus, parce que quand je dis au bout du suspense, c'était au bout des tirs au but, une séance dingue contre les Pays-Bas. Et il était près de 6 heures du matin quand le match s'est terminé.
Wake up.
Allez, une petite pensée aux Marocains, que la force soit avec vous au boulot aujourd'hui. On a peu dormi cette nuit, ça recommence ce soir avec les Bleus, France-Suède, c'est à 23h. Ouais, ça va bailler sec devant les machines à café.
Ouais, les Beatles, A Day in the Life. Alors on va faire comme si on était au stade pour voir ce France-Suède avec une autre musique omniprésente.
En fait, la musique, elle est partout dans cette Coupe du Monde. Chaque sélection a droit à 4 morceaux diffusés à des moments très précis. Allez, je vous en mets au MetLife Stadium de New York, comme si on y était. Charles Aznavour va résonner dans le stade après l'annonce de la compo de l'équipe de France. C'est comme ça à chaque match. Ensuite, on passe à l'échauffement et là, on s'ambiance un peu plus. Je suis comme ce son qui Théodora,
avec
puis aussi avec Dizzy bien sûr, et puis aussi un peu de French Touch.
Justice.
Exactement. Je ne sais plus de quand ça date, mais ça fait un petit moment.
2007.
Au moins 15 ans.
2007.
Oui. Ah oui. 19 ans. Ok, ok. Mais bon, ce qu'on veut surtout entendre nous ce soir, je suis désolée, mais c'est ça.
Ah là, je sais pas si c'est pas 99 même.
Ouais, je crois, ça passe pas l'année 2000, ouais. Daft Punk que vous entendez à chaque but des Bleus depuis le début de cette Coupe du Monde. On a de la chance parce qu'on l'a entendu beaucoup, pourvu que ça dure.
Alors, ça va durer, c'est Opta qui le dit.
Oui, Opta, vous savez, affine ses prévisions en temps réel pour cette Coupe du Monde. Après la phase de poule, le générateur de statistiques a fait 25 000 simulations du reste de la compétition. Autant vous le dire tout de suite, la finale, ce sera France-Argentine. On n'a pas déjà vu ça quelque part, je sais pas, mais bon, ah ouais. Ça va pas se terminer pareil, hein. Enfin, j'espère en tout cas.
Ce mardi 30 juin va être férié au Paraguay.
Oui, c'est ce qu'a annoncé le président du pays pour fêter la qualification pour les huitièmes de finale. Les Paraguayens qui ont sorti l'Allemagne au tir au but hier soir. C'est fou parce que l'Équateur avait déjà décrété un jour férié après une victoire contre la Mannschaft en phase de poule. C'est bien, l'Allemagne multiplie les jours de repos en Amérique latine. C'est offert par la maison, hein.
C'est offert par Berlin. Les États-Unis affrontent la Bosnie-Herzégovine dans la nuit de mercredi à jeudi en 16e de finale.
La quoi ?
La Bosnie-Herzégovine.
Parce que ça, il y a une journaliste américaine qui suit cette Coupe du Monde, qui fait un direct à propos de Team USA et qui évoque ce 16e de finale comme ça. And one thing about Bosnia, I could not point out where it is on a map. Voilà, je ne saurais même pas mettre la Bosnie sur une carte et je ne veux rien savoir de la Bosnie. Bon, si elle avait voulu prouver à quel point les Américains étaient nuls en géographie, ça ne serait pas pris autrement. Mais elle s'est excusée après en disant qu'elle avait été méprisante. Oui, enfin, faut peut-être juste bosser un peu, non ?
Merci Virginie Fulpin. France-Suède, 23h sur RMC, en direct, en intégralité, avec la Dream Team RMC, en direct de New York, sur la radio officielle de la Coupe du Monde. L'avant-match, c'est dès 18h. Et l'after-foot, jusqu'à 5h du matin. Dans un instant, les grandes gueules, les GG, quel est le programme, mon cher Alain ? Bonjour Alain.
Justement, on va en parler. Comment est-ce qu'on s'organise dans ces cas-là ? On va vous demander au 32-16 si vous avez posé votre matinée, si vous vous êtes organisé en fonction du calendrier et des horaires des matchs pour aller au boulot, ou si vous êtes mis au télétravail.
Dans le Morning RMC, on vous fera vivre la fin de Mexique-Équateur demain matin. Si vous voulez du teasing.
De quoi va-t-on parler dans les GG ? D'une grève des loyers pour ceux qui n'ont pas de volet. Vous avez vu, c'est une pétition qui a été lancée. De ce jeune Hamza Ladouane, ce jeune ado, cet ado de 14 ans là, qui sème la pagaille au canal Saint-Martin. Et puis Karine Lemarchand qui assume l'échange qu'elle a eu sur Instagram avec le rappeur Chaotique par rapport aux tueurs d'enfants. Pour moi, tu enlèves la vie, on t'enlève la vie. Donc c'est le débat qui revient sur la peine de mort. Vous venez en discuter avec nous dans les GG au 32-16.